Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce jeudi 25 février. Pour vous accompagner, Bertrand Tungandamé. Au sommaire de cette édition, comme tous les jeudis, on va voir l'état de santé de l'économie australienne. On parlera également cinéma et également on va parler de l'actualité sportive de cette semaine. Mais avant de développer tout cela, le journal de ce jeudi. Au sommaire de ce journal, les autorités australiennes s'engagent à soutenir la campagne vaccinale. Et Brisbane a désigné favorite pour l'organisation des JO de 2032. Et Covid en France, le gouvernement annonce un confinement le week-end dans l'agglomération de Dunkerque. La ministre fédérale de la Défense, Linda Reynolds, reste hospitalisée depuis hier soir et Mme Reynolds subit de fortes pressions depuis que l'affaire du viol de Brittany Higgins par un collègue a éclaté au grand jour la semaine dernière. S'adressant à un événement dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le Premier ministre Scott Morrison a donné les dernières nouvelles de Linda Reynolds.
Much improved from where she was the night before, and under doctor's instructions, she'll remain under observation for a few more days yet. And she's looking forward to returning to her duties and getting on with the job. She's doing a great job, and particularly on a morning like this morning, I want to be able to say she's doing a great job more and more often in the future. And I have great confidence in the work that she's doing.
Et c'est Marie Spain, la ministre des Affaires étrangères, qui assume les fonctions de Linda Reynolds pendant que cette dernière est en congé maladie. Il faut souligner qu'une enquête criminelle a été ouverte après que Brittany Higgins a déposé plainte formellement à la police de Les City. Brittany Higgins, c'est cet employé qui dit avoir été violé au Parlement en 2019. La liste des personnalités politiques qui étaient au courant des faits avant Scott Morrison ne cesse de s'allonger. Peter Dutton, le ministre de l'Intérieur, était au courant des faits, mais il ne l'a pas rapporté au Premier ministre. Peter Dutton dit ne pas avoir informé Scott Morrison car c'est une affaire qui relève, selon lui, des procédures opérationnelles de la police fédérale australienne.
I took a decision at that time that I wasn't going to inform the Prime Minister because this was an operational matter, and I have a special responsibility as the Minister for the Australian Federal Police to receive briefings, as I do on a regular basis, from the Commissioner. And I don't instruct him how to conduct his investigations. I don't impede his investigations. I don't seek to influence his investigations. I formed the judgment that I was not going to provide that information or disclose, and I don't compromise that.
Et la confiance dans le déploiement de la campagne vaccinale en Australie s'est détériorée après qu'un médecin qui n'avait pas reçu la formation adéquate a administré des doses incorrectes à deux personnes âgées pensionnaires d'une maison de repos au Queensland. Une femme de 94 ans et un homme de 88 ans ont reçu 4 fois la dose maximale du vaccin Pfizer. L'Association des médecins australiens a critiqué la procédure d'accréditation en ligne des personnes chargées d'administrer les vaccins. Certains professionnels de santé se plaignent de ne pas avoir reçu leurs accréditations à temps alors qu'ils ont payé les 1 000 $ nécessaires pour recevoir leur formation et leur accréditation. Le docteur Paul Griffin, spécialiste en maladies infectieuses de la faculté de médecine de l'Université du Queensland, a déclaré à Nine Network que l'Australie a beaucoup à apprendre de cet incident.
You know, I think the preparations were very good. There was some robust training in place, and perhaps that wasn't fully completed, which obviously is concerning. But I'm confident we'll learn from this. We'll make sure that this training is done by everybody involved. And I'm sure we'll learn a lot from this unfortunate event. And the chance of this happening again will be extremely remote.
Et le leader des travaillistes, Anthony Albanese, demande au gouvernement fédéral d'assurer un bon déroulement de la campagne vaccinal contre la COVID-19 après l'incident survenu au Queensland. Monsieur Albanese, qui lui a déjà été vacciné, espère que cet incident ne va pas influer sur la confiance du public dans le vaccin.
The government needs to get it right. The government's responsible for the rollout. I got my vaccine. I want every Australian to be vaccinated.
Il faut souligner que la campagne vaccinale en Australie est en retard par rapport à ses objectifs. Et selon le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, seules 26 maisons de repos ont reçu leur livraison de vaccins au second jour de la campagne. Il était prévu qu'à la fin de la première semaine de la campagne vaccinale, 240 maisons de repos auraient reçu leur dose de vaccin. Healthcare Australia, la société bénéficiaire du contrat pour livrer à la Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland donc les doses vaccinales, admet qu'elle est incapable d'atteindre ses objectifs cette semaine. Et toujours en Australie, une nouvelle loi sur le code de marchandises dans la presse est passée au Parlement, une loi qualifiée de première mondiale. Facebook dit après donc le passage de cette loi qu'il va investir 1 milliard de dollars pour soutenir la presse dans les 3 prochaines années. Facebook envisage également d'augmenter son investissement dans la presse locale et envisage également de signer des accords avec des organes de presse canadiens. Et la bulle des voyages trans-Tasman a été temporairement suspendue. Cette mesure est intervenue après que la ville d'Auckland ait été déclarée comme un foyer de contamination par la plupart des États australiens. Les voyageurs en provenance de Nouvelle-Zélande ne sont plus exempts de la quarantaine à leur arrivée en Australie. Le Queensland, le Victoria ainsi que la Nouvelle-Galles du Sud exigent désormais des voyageurs en provenance de Nouvelle-Zélande depuis le 20 février de se faire dépister et de se mettre en isolement. Le nombre de cas liés au cluster d'Auckland s'élève désormais à 8. Et Qantas, la plus grosse compagnie aérienne d'Australie, a déclaré des pertes d'un milliard de dollars pour la première moitié de l'année. Cette perte s'ajoute à une diminution de recettes de 6,9 milliards de dollars consécutive à la restriction des voyages. Alan Joyce, le PDG de Qantas, a déclaré que sa compagnie projette de reprendre les vols internationaux au mois d'octobre prochain à la fin de la campagne de vaccination en Australie. Et en France, l'agglomération de Dunkerque sera soumise dès la fin de cette semaine à un confinement local pendant le week-end, du vendredi soir au lundi matin, pour contrer une incidence alarmante de l'épidémie de COVID-19. Dans cette agglomération de 250 000 habitants, dont 1 sur 100 tombe malade chaque semaine, les déplacements le week-end ne seront possibles que pour certains motifs et les 10 plus grands centres commerciaux ne fonctionnent plus qu'en cliquer emporter, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. Et un bateau de migrants a chaviré dans la Méditerranée, entraînant la mort d'au moins 41 personnes par noyade. Selon Carlotta Sami du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, il s'agit de migrants fuyant la Libye pour se rendre en Europe.
This is the second deadliest shipwreck in the Central Mediterranean in 2021, bringing the number of dead and missing up to some 160 people. That's why UNHCR and IOM jointly are calling European states to resume and strengthen Europe's search and rescue system.
Et donc, un navire commercial a secouru les survivants de cette noyade et les a ramenés en Sicile, en Italie. Parmi les personnes disparues figurent des femmes et des enfants. Et retour en Australie où le géant minier australien Fortescue Metals Group a présenté ses excuses à la communauté aborigène de Wintawari Guruma Corporation après avoir détruit des sites sacrés appartenant à ce groupe pour faire place à un projet minier. Les responsables de Fortescue Metals Group ont admis qu'ils n'ont pas respecté une consigne du gouvernement de s'assurer de la présence des représentants de la communauté aborigène sur le site au moment de sa destruction. Et les travaillistes australiens font monter la pression contre le gouvernement fédéral qu'ils accusent de ne pas faire assez pour contrer le radicalisme d'extrême droite. Ceci à la suite d'un incident survenu samedi dernier à Perth. Selon la police, un individu arborant une croix gammée peinte sur son front s'en est pris à une femme aborigène et sa fille adolescente, proférant des injures racistes, et l'individu a tenté de brûler la femme aborigène à l'aide d'un déodorant aérosol et d'un briquet. Selon la police, la victime a été soignée pour des blessures légères. Et Peter Dutton, le ministre de l'Intérieur, a qualifié cet incident de troublant. Et pour les nouvelles sportives, une première, donc une bonne nouvelle pour Brisbane, c'est officiel, la candidature de Brisbane pour l'organisation des JO d'été et des Paralympiques de 2032 vient d'être proclamée comme favorite. La commission d'organisation des prochaines Olympiades du Comité olympique international a désigné Brisbane comme la ville candidate favorite pour organiser les Jeux de 2032. Le président du Comité olympique international, Thomas Bach, dit que des discussions vont commencer et devraient aboutir dans un an avec la désignation officielle de Brisbane comme ville organisatrice des JO de 2032. Cependant, selon Matt Carroll, le CEO du Comité olympique australien, il est trop tôt de célébrer car la course n'est pas finie et il y aurait encore du chemin à parcourir.
Another step on the process of securing the games for Queensland and for Australia. The race is not over yet. You don't declare victory until you get the finish line.
Il faut souligner que si les négociations aboutissent en faveur de Brisbane, elle deviendrait la troisième ville australienne à organiser les JO après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000. S'adressant à Channel 7, John Coates, le président du Comité olympique australien, estime quant à lui que la victoire de Brisbane est quasiment acquise, contrairement à son collègue donc Matt Carroll. Écoutons John Coates.
There were five or six other cities in there, but now there's only Brisbane. It's back with us though now to complete the documentation, answer the questionnaires, give the undertakings, all of the stuff that we've seen and know is there. Do that.
Et à présent, un coup d'œil météo à travers les principales villes d'Australie. Perth, 32 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 23. Hobart, 20. Canberra, 26 degrés. Wollongong, 24. Sydney, 27. Newcastle, 27 également. Brisbane, 29. Cairns, 32. Et Darwin, 30 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Les autorités australiennes s'engagent à soutenir la campagne vaccinale et Brisbane a désigné favorite pour l'organisation des JO de 2032. Et Covid en France, le gouvernement annonce un confinement le week-end dans l'agglomération de Dunkerque. Ceci termine l'actualité de ce jeudi. On passe à une courte pause avant de passer au magazine des sports de Jean-Noël Ducasse.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le rugby et le match France-Écosse de dimanche aura bien lieu malgré le nombre inquiétant de joueurs qui ont testé positif au Covid-19. Olivier Pron, Radio France Internationale.
Oui, malgré 15 testés positifs au Covid-19 dans les rangs français, dont le capitaine, le demi de mêlée et le sélectionneur, on jouera bien dimanche à 15h TU, car il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis 48 heures. On croise les doigts, les Bleus sont en tête après deux journées et autant de victoires à l'extérieur. Ils vont recevoir les Écossais sans 8 joueurs titulaires tout de même depuis le début du tournoi, mais avec la furieuse envie de prolonger leur rêve de grand chelem.
On écoute maintenant Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby sur European Broadcasting Union.
Les premiers cas positifs ont été décelés lundi, avec donc une possibilité de contamination dans les 48 heures avant ce test-là, et ça incluait le jour du match et le jour du transfert entre Dublin et Paris, et donc des jours où il y avait énormément d'interactions, donc il y a eu une grande dissémination du virus.
Foot, Ligue des Champions avec deux matchs des huitièmes de finale aller hier. Le Real de Madrid de Zidane a battu l'Atalanta Bergame 1-0 et Manchester City a battu le Borussia Mönchengladbach 2-0. Beaucoup de victoires à l'extérieur récemment pour cette Ligue des Champions. Analyse des ténors de Radio Foot International, Olivier Pron, Martin Guez, Tom Rossi et David Lortolari.
Ouais, exactement. Beaucoup de victoires extérieures. On avait commencé en fanfare avec le PSG. On s'en souvient. C'était il y a une grosse semaine, hein, qui avait gagné contre le FC Barcelone. Alejandro Valente,
d'un certain Lionel.
Un Lionel Messi qui avait pourtant ouvert le score sur penalty.
Il a coupé à cette heure-ci, il aurait fait la manger sa soupe.
Défaite 4-1 à domicile pour Barcelone. Défaite aussi pour Leipzig, un autre club allemand qui a perdu 2-0 à domicile à Budapest.
Face à l'équipe contre laquelle tout le monde gagne en ce moment.
Voilà, c'est exactement. Défaite 2-0 contre Liverpool la semaine passée. Le lendemain, ça s'était un petit peu mieux passé à domicile pour le FC Porto qui a battu la Juve 2-1, un petit peu moins bien à domicile pour le FC Séville, battu 3-2 par des Allemands, d'autres Allemands, un autre Borussia, le Borussia Dortmund avec un doublé d'Erling Haaland, une victoire 3-2. Et puis vous l'avez vécu hier déjà sur RFI, la large victoire du Bayern Munich 4-1 sur la pelouse de la Lazio Rome, la victoire de Chelsea aussi à l'extérieur contre l'Atlético de Madrid, ça fait énormément de
victoires. Ça fait quoi, 5 on en est à 2-4, ça fait quoi, 6 victoires à l'extérieur
et une seule victoire à domicile. Ouais,
et un nul, non, c'est
et
ça.
Deux victoires à domicile, pardon.
Deux victoires, non, il y a pas 6 victoires à l'extérieur sur ces huitièmes. Allez, c'est quand même pas banal.
Donc c'est un peu le ressenti qu'on a dans le championnat que je suis le plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a eu aussi un record de victoires à l'extérieur et de matchs nuls.
Il y a plus de public, donc ça joue moins.
Forcément.
Mardi, il y avait deux matchs avec les victoires de Chelsea contre l'Atlético de Madrid et du Bayern de Munich contre la Lazio Rome. Sylvie Berruet et Hugo Moissonnier pour RFI.
Les Girouins, on précise, oui. Son magnifique retourné à la 68e minute a permis à Chelsea de s'imposer 1-0 contre l'Atlético de Madrid à Bucarest. Un huitième de finale aller délocalisé en raison du contexte sanitaire. Officiellement donc une rencontre à l'extérieur pour les Blues qui, grâce donc à leur inusable champion du monde français, sont en bonne position pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions. À noter la titularisation d'Edouard Mendy dans les buts et la bonne entrée du Marocain Hakim Ziyech. Toujours du côté de Chelsea, il faudra tout de même confirmer ce succès le 17 mars à l'occasion de la deuxième manche.
Et puis victoire également du tenant du titre, hein, le Bayern de Munich.
Oui, pas de vacances romaines pour les Bavarois, pas de Dolce Vita, plutôt en mode rouleau compresseur, hein, toujours à l'occasion des huitièmes allées. Succès 4-1 sur le terrain de la Lazio avec Akpa Akpro, un Ivoirien du côté romain, et Choupo-Moting qui est entré en jeu du côté du Bayern. C'est bien parti pour ce club de Munich. Match retour le 17 mars également.
Et puis un match de Ligue 1 hier avec la victoire de Nîmes contre Lorient, 1-0. En Espagne, le FC Barcelone a joué un match en retard contre Elche, victoire pour les Barcelonais 3-0. Match amical féminin avec la France qui a battu la Suisse 2-0 pour un 15e match sans défaite. Les Socceroos ne participeront pas à l'édition 2021 de la Copa América et pour cause les matchs de qualification de la Coupe du Monde 2022. La Confédération Asiatique de Foot a avancé de plusieurs dates des rencontres internationales. Les Socceroos joueront contre le Népal le 30 mars prochain et un deuxième round en juin, avec une possibilité que les trois derniers matchs de qualif vont être disputés à domicile. Le calendrier des qualifications pour la Coupe du Monde de 2022 a été considérablement perturbé au cours des 12 derniers mois par la pandémie de Covid-19. La 47e édition de la Copa América se jouera du 11 juin au 10 juillet prochain. Et puis, le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, c'est fini. Et qualification du Maroc, de la Gambie, du Cameroun, de la Gambie, du Burkina Faso, de l'Ouganda, Centrafrique et du Ghana pour les quarts de finale. Un mot de tennis, le tournoi de Montpellier qui se poursuit et le retour de Joe Wilfried Tsonga, mais battu au premier tour par Sébastien Corda. Mais Joe Wilfried est heureux d'être de retour. On l'écoute sur RFI.
plus important pour moi, c'est de retrouver le rythme de la compétition qui est quand même beaucoup plus élevé que tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. Donc, c'est ça qui me manque. Le coup de raquette, il est encore là. Aujourd'hui, j'étais loin de mes pourcentages de service. J'étais loin un peu de tout. Mais ce qui est très positif pour moi, c'est de sortir de là en me disant bah demain je peux jouer un autre match. Mais a priori ça devrait aller, donc ça c'est très très positif. Et voilà les enseignements que j'en tire. On peut pas sortir d'une année sans jouer, jouer un match et se dire oui j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, on essaie juste de se dire que c'est déjà bien d'avoir été sur le terrain et de pouvoir avoir le droit de continuer. Et voilà tout simplement.
Et puis à Adélaïde, le tournoi WTA, l'Australienne Ash Barty battue hier par Daniel Collins en deux manches au premier tour. Un mot de golf et Tiger Woods, comme vous le savez, victime d'un accident de la route près de Los Angeles. Précision de Christophe Diremzian pour Radio France Internationale.
Tiger Woods est un miraculé, au dire du premier policier intervenu sur les lieux de l'accident au sud de Los Angeles. Selon les premières constatations, le SUV du golfeur a franchi le terre-plein central et percuté un arbre avant de faire plusieurs tonneaux et de finir en contrebas de la route. Conscient lorsqu'il a été extrait de son véhicule, il a aussitôt été transféré à l'hôpital où il a subi une intervention pour de multiples fractures ouvertes à la jambe droite. Son pied et sa cheville ont également dû être consolidés. À 45 ans, Tiger Woods n'en est pas au premier problème de santé qui fait craindre le pire pour la suite de sa carrière. Son dos le fait souffrir depuis 2014, au point de devoir quitter le circuit professionnel en 2016 et 2017, période pendant laquelle il subit 4 interventions sans résultat probant. Son inquiétude de ne plus jamais revoir les greens finit par déteindre sur son comportement. En mai 2017, il est interpellé en Floride au volant de sa voiture, sous l'emprise de médicaments et d'antidépresseurs. Il avait fini par signer un retour au sommet en avril 2019, remportant le prestigieux Masters d'Augusta. Mais son dos ne le laisse toujours pas en paix et l'accident de ce mardi hypothèque un peu plus ses chances de le revoir un jour au plus haut niveau.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
J'avais du soleil. J'avais du soleil. J'avais du soleil.
Et c'était Jaloux du soleil par Laurent, vous le disiez sur les antennes de la radio SBS ce jeudi 25 février. Je vous invite également à nous suivre, donc à visiter notre site internet sbs.com.au/French et de poursuivre la conversation sur les réseaux sociaux où nous sommes également très bien implantés, donc sur Facebook et Twitter. Place à présent à une courte pause et après la pause, restez avec nous parce que nous allons tout de suite après la pause décrypter l'état de santé de l'économie australienne en ce milieu de semaine.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'augmenter le paiement de JobSeeker.
Oui, tout à fait. Donc, ça fait assez longtemps qu'on parle de ça, parce que, bon, avec la pandémie qui a commencé, ils avaient déjà augmenté le taux de, c'était NU, ça s'appelait NU Start avant, ils ont appelé ça JobSeeker, avec un paiement supplémentaire pour Covid-19. Et là, maintenant, ça va finir. Et là, le gouvernement a annoncé qu'en fait, les gens vont être payés 25 dollars de plus chaque semaine. Donc, 50 dollars toutes les deux semaines quand ils réclament leur job seeker. Et ça fait un moment qu'on en parle. Et là, le gouvernement a donné le feu vert à ça. Ça veut dire que maintenant, ça va atteindre le niveau de 307 dollars chaque semaine, ce qui est beaucoup moins que ce que demandaient pas mal de groupes dans le secteur du business, les verts, les travaillistes et d'autres groupes. Ils demandaient beaucoup plus parce qu'ils avaient dit que en fait le taux n'avait pas monté depuis plus de 20 ans en fait. Et on peut vraiment dire que il y a eu le taux qui a tout doucement monté avec l'inflation, mais vraiment ça n'a pas été levé depuis les années 90 en fait. Et actuellement, il y a 1,2 million de personnes qui reçoivent les paiements de JobSeeker. Mais là, ce qui va se passer, c'est non seulement ils vont avoir un petit peu plus d'argent, mais ils vont pouvoir travailler plus qu'avant, avant que le job seeker soit coupé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bienvenu. Mais les Verts, pour leur part, ont dit que les $25 par semaine, c'est tout à fait insultant. Et les gens, ça va pas vraiment les aider. Il y aura des gens au chômage qui vont pas pouvoir payer le loyer, qui vont avoir faim, qui vont rester très, très pauvres. Et maintenant, il y a d'autres groupes, les welfare groups, comme le Council of Social Services, qui disent que, en fait, c'est l'équivalent de $3.57 chaque jour, que c'est insultant, que c'est beaucoup trop petit, et que, en fait, là, le gouvernement a choisi de laisser les gens dans une situation de pauvreté, et que c'est à peine plus que c'était avant Covid. Ils disent que $25 chaque jour aurait été beaucoup mieux, et ça aurait été plus l'équivalent de d'autres formes de soutien comme la pension. Mais voilà, ça c'est la décision du gouvernement. Donc après un long débat, ils ont décidé sur $25 de plus chaque semaine.
Un côté peut-être inattendu de la pandémie et du confinement, c'est que certaines personnes arrivent à économiser plus qu'avant.
Bah oui, voilà, c'est étonnant, et c'est pas étonnant, mais si on est au confinement, on peut pas sortir, on peut pas dépenser autant d'argent, on peut pas aller en vacances, ce qui coûte très cher. Et bien sûr, à Melbourne, là, il y a eu plusieurs confinements. Et il y a quelque chose qui s'appelle the household saving rate, c'est le taux d'épargne des ménages, qui est actuellement à son plus haut niveau en 60 ans. Donc, en juin l'année dernière, ça avait dépassé les 22%, et maintenant c'est plutôt à 20%. Mais avant la pandémie, c'était seulement à 5%. Donc une hausse absolument énorme. Et on voit des gens qui racontent comment pendant le confinement, ils ont presque rien dépensé, et ils ont pu économiser des milliers de dollars, et donc ils ont pu acheter des maisons. Mais les gens, ils achètent plein de choses, des choses pour leur maison, comme des machines à laver, des fours, des voitures. Ils font des rénovations sur leur maison. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de prêts en ce moment pour acheter des maisons, en fait à peu près 60% plus que l'année dernière. Donc ça c'est un côté pas très connu de la pandémie financièrement, mais il y a aussi l'économiste en chef de BIS Oxford, Sarah Hunter, qui dit que c'est pas très clair combien de temps ça va continuer, que les gens vont non seulement économiser plus, mais dépenser plus. C'est en particulier quand il y a beaucoup de mesures de soutien du gouvernement qui vont arrêter dans les mois à suivre, comme JobSeeker précisément. Donc c'est la dernière phase là de la pandémie, et ça n'arrête pas de changer. Donc vraiment c'est assez extraordinaire de voir l'effet de cette pandémie sur l'économie australienne.
Merci Nicolas. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Et
Et c'était le Petit Jardin avec Thomas et Jacques Dutronc. Et à présent, on va parler cinéma. Eh bien, le Festival du cinéma français de retour à Melbourne et à travers l'Australie. Et ceci juste après une très courte pause.
J'ai le plaisir d'avoir Johanna Durand, qui est la directrice de l'Alliance française de Melbourne, qui revient nous voir après une année d'absence dans les studios de Radio SBS. Bienvenue, Johanna.
Merci beaucoup, Jean-Noël.
C'est une première, car vous êtes ma première invitée en studio depuis le début de l'année, depuis le début de la pandémie.
Oui. Et c'est un honneur de vous retrouver après un an, enfin, en physique, en face à face. On a de quoi célébrer. Je pense que les Melbourniens ont été extrêmement coopératifs et ont joué la carte de l'unité et de la solidarité. Et je pense que c'est une fierté pour tous les Victoriens d'arriver au bout de l'éradication, on va dire. Et quoi de mieux que de célébrer au cinéma ?
Au cinéma avec la 32e édition du Festival du film français, déjà. Donc à Melbourne, c'est à partir du 3 mars jusqu'à fin mars. Et donc il y a une sélection de, je crois, plus de 35 films à l'affiche, choisis par Karine Maurice, qui est la nouvelle attachée culturelle de l'ambassade de France en Australie.
Exactement, Jean-Noël. Donc, Karine Maurice, la directrice artistique du Festival du film français, a sélectionné 37 films absolument extraordinaires, la crème de la crème, parmi lesquels il y a 9 avant-premières mondiales, ce qui est une première, parce que c'est vraiment rare d'avoir un tiers pratiquement des films qui sont des avant-premières mondiales, donc on est très très fiers. Il y a à peu près 20% des films qui sont réalisés par des femmes, et il y en a une douzaine dont les acteurs ont été nominés au César. Donc c'est une édition très particulière, puisque c'est la première après la pandémie. C'est le plus gros événement culturel en Australie, puisqu'il attire chaque année plus de 200 000 spectateurs. Et c'est le premier festival du film français à l'étranger, donc après Cannes, qui aura lieu cette année en juillet. Donc on est très fiers de pouvoir avoir cette édition. Ça a un petit goût unique, un petit goût de privilège. On se dit quelle chance ont les Australiens et les Melbourniens en particulier de pouvoir retourner au cinéma, voir des films de ce calibre et puis célébrer ensemble dans des conditions sanitaires optimales, puisque les cinémas sont les lieux les plus sûrs, puisqu'il n'y a pas de... Il y a des conditions extrêmement strictes de ventilation et qu'il n'y a pas d'interaction face à face. Donc il n'y a eu aucun cas de contamination dans les cinémas. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est l'occasion, voilà, de déguster une coupe de vrai champagne et de petits plaisirs français, des cannelés, des macarons, des chocolats, des choses aussi salées. Enfin, on a plein de petites gâteries et de petites surprises qui vous attendent en plus du film. Donc on est vraiment... ravie et excitée, enthousiaste à l'idée de vous retrouver, de reconnecter en salle, de pouvoir discuter, débattre et partager les coups de cœur sur les différents films.
Et donc avec l'Opening Night, on va commencer par l'Opening Night, c'est Eiffel et c'est un film de Martin Bourboulon, et d'après ce que je comprends, c'est une première mondiale.
Absolument. On n'a même pas vu de bande-annonce. Le secret est très très bien gardé. Paris tremble. Ils sont aussi émus que le film soit lancé mondialement en Australie. Et c'est un film très très prometteur avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamp, Amande Boulanger, Michel Clément, et qui, voilà, c'est une super production, on peut le dire, en tout cas qui va plaire à un grand nombre de spectateurs, qui va certainement vous surprendre, vous apprendre des choses aussi sur l'histoire de Gustave Eiffel, la construction de la Tour Eiffel, bien sûr, mais aussi tout ce qui est, tous les secrets qui ont pu se passer autour, et bien sûr, une histoire d'amour.
Donc c'est un voyage dans le Paris de 1889.
Exactement.
Et je vais aller à la fin pour la closing night. C'est une seule projection. C'est le film I Am Here de Éric Lartigot. Et je dois préciser qu'il faut réserver les places parce que les places sont limitées dans les salles.
Oui. Jean-Noël, c'est un très très bon conseil pour tous nos auditeurs parce qu'avec les restrictions gouvernementales, en fait, il y a un nombre de places limitées par salle de cinéma. On a un nombre de séances limitées. Donc, pour garantir et sécuriser votre place, il faut absolument, absolument réserver en ligne. Vous allez sur le site internet du festival et vous pouvez réserver vos places. Donc, la soirée de clôture, je suis là. Donc, c'est également une première, c'est une première australienne avec Alain Chabat. C'est un film qui est extrêmement drôle et qui est extrêmement moderne puisqu'il parle aussi d'une histoire d'amour entre une Coréenne et un Français qui se rencontrent sur Internet et qui ne se sont jamais vus en fait en vrai. Et donc, c'est l'histoire de cette première fois. Lui est chef et puis il débarque... à Séoul, et c'est assez exotique puisqu'il passe, je crois, une semaine dans l'aéroport. Donc, pour ceux qui sont nostalgiques des aéroports, je pense que là, vous aurez votre dose d'anecdotes aéroportuaires. Mais c'est très drôle, c'est léger, ça change les idées, ça fait juste un film plaisir, quoi. Il y a beaucoup de films comme ça, feel good, qui nous mettent le sourire aux lèvres et qui nous... Voilà, c'est un petit peu la thématique de l'année, se réenchanter, c'est la renaissance, c'est voilà, l'espoir après les difficultés. C'est l'année du phénix.
Oui, absolument. On va parler peut-être des soirées spéciales, car il y en aura à Melbourne.
On a bien entendu le message de des communautés et puis de vos auditeurs. Tout le monde veut se retrouver finalement et a envie de partager, de déguster. Et on en a un peu marre d'être seul parce que c'est pas pareil de regarder un film derrière son écran d'ordinateur tout seul que d'avoir l'expérience en réel au cinéma. Hein. C'est difficilement comparable en fait. Donc on a prévu un événement spécial par semaine. Donc tout au long du festival qui a lieu du 3 au 31 mars, tous les mercredis, un événement spécial. Donc on a l'ouverture
l'opening
qui
night.
Est quasiment complète d'ailleurs, ouais. Quasiment. Ouais. Je crois qu'il doit rester une dizaine de places pour le 3 mars avec Eiffel. Ensuite, on a une soirée spéciale canadienne. Le 10 mars, avec Aline, qui est la biographie de Céline Dion. Donc, tous nos amis francophones seront charmés. Et puis, tous les fans de Céline Dion, ou pas d'ailleurs, parce que c'est une très, très belle histoire, très humaine, qui met vraiment des étoiles dans les yeux. Donc, sont invités pour cette séance du 10 mars, Aline, avec plein de petites douceurs canadiennes. Ensuite, le 17 mars, on a le film Délicieux, donc autour d'un chef français, voilà, qui va être exceptionnel. Je crois que celui-ci est quasiment complet également. On l'organise en partenariat avec le Bastille Day Festival.
Oui.
Ensuite, pour les fans
de tennis,
on a Final Set qui a lieu le 24 mars.
Alors, je dois préciser que pour la première fois, il y aura une projection dans cette nouvelle salle de cinéma qui s'appelle Pentridge Cinema, qui est anciennement
une prison
dans le Victoria pour les gens qui ne connaissent pas.
Exactement. Bah, ça vaut le coup d'y aller, même si vous n'habitez pas dans le nord de Melbourne. C'est tellement beau. Et c'est très très grand, ça. C'est vraiment c'est un beau lieu, je pense, qui mérite d'être visité pour ses qualités architecturales et son voilà cette ambiance. C'est un petit voyage finalement dans Melbourne. Donc venez au Pentridge pour la soirée canadienne.
On parle de vos coups de cœur, Johanna. Je sais que vous avez aimé The Godmother, qui a été projeté en avant-première.
Oui, pour les journalistes, exclusivement. Alors, La Daronne, avec Isabelle Huppert, est un film très, très inspirant, d'actualité, plein de complexité, de subtilité, d'humour. Je pense que ça plaira à beaucoup, et je vous invite, je veux pas trop en dire, dirigé par Jean-Paul Salomé, ouais. Et c'est vrai que voilà, on se retrouve vraiment dans le Paris, Barbès, Belleville, dans toutes les implications policières. Si vous avez aimé, si vous aimez le bureau, d'ailleurs, qu'on peut voir sur SBS.
On demand toujours.
Voilà, ouais. Donc si vous aimez ce type de film, je pense que vous allez adorer La Daronne, qui est vraiment un très beau film.
Et d'autres films qui vous ont plu
Oui, alors pour les Français et les francophones en particulier, je pense que vous allez adorer Effacer l'historique avec Blanche Gardin, parce que c'est vraiment un humour très piquant, très mordant. C'est une première australienne et on rit du début à la fin, on réfléchit. C'est vraiment, je dirais, le plus français des Français, des films français dans cette programmation. Évidemment, j'ai envie de dire De Gaulle, c'est un incontournable. Il faut y aller en famille. Il y a beaucoup de films qui sont des films qu'on peut profiter. En famille, parce que ça fait réfléchir, ça fait discuter, c'est un vrai partage et ça nous rappelle des endroits de France, des moments historiques, des choses comme ça.
Absolument, il y a des films d'animation surtout, il y a des films pour enfants. Une très belle sélection cette année-ci.
Oui, absolument. On peut aller en famille ou pour les enseignants qui nous écoutent. On a des fiches pédagogiques qui accompagnent tous les films jeunesse. Donc vous pouvez organiser une sortie scolaire, aller au cinéma. Je pense que ça fera plaisir aux bouts de chou qui ne sont pas sortis l'année dernière. Et il y a des très très beaux films. On a Petit Vampire, qui est une animation, aussi une première australienne. Polly, qui est extrêmement émouvant. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai tellement aimé. L'histoire d'une petite fille qui sauve un cheval du cirque. Il y a Mystère. Il y en a pour tous les âges. Évidemment, l'histoire de Calamity Jane. Et pour les plus grands, bien sûr.
Oui.
Pour vos adolescents, donc j'ai dit De Gaulle, mais il y a aussi 5e set pour les fans de tennis, ou l'histoire de Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros. Mm-hmm. Ça peut aussi inspirer les plus jeunes.
Et donc il y a aussi des sessions pour les écoles, d'après ce que je comprends, comme chaque année.
Oui, absolument. Ouais. Donc primaire, collège, lycée, tous les enseignants peuvent amener leurs élèves. Et j'ai envie de dire pas seulement les enseignants de français, parce que certes, il y a le volet linguistique, mais il y a également le volet culturel et simplement de partager une belle histoire ensemble. Comme il y a des sous-titres, ça fait lire les enfants, hein, parce qu'au final, c'est presque un livre entier. Quand ils ont fait une heure et demie avec des sous-titres, ça quand même les force à lire. Donc, c'est intéressant et puis ça peut donner une autre approche.
Et tous les films sont sur le site également de l'Alliance française de Melbourne, afmelbourne.com.au, et aussi sur Alliance française French Film Festival.
Absolument.
org.au. Peut-être un message, Johanna, à lancer, à inviter les gens qui ne sont pas allés dans les salles de cinéma depuis plus d'un an.
Bah oui. retrouvons les bonnes habitudes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont profité de l'été pour refaire du sport, pour se remettre en forme. Mais le cerveau, c'est important aussi. Donc, c'est bien de reprendre des habitudes. Reprenez les cours de français, les cours de conversation. Revenez dans les salles de cinéma. Et puis, parlez-en autour de vous, parce que ce festival, c'est pour vous qu'on le fait. Qu'il est voilà dessiné, qu'il est voilà c'est une gestation, c'est un an de préparation. Le Festival du film français, donc c'est et c'est pour les publics qu'on le fait. Donc c'est important de venir nombreux, de soutenir, d'en parler autour de vous, d'inviter vos amis, votre famille. Et puis il y a des tarifs réduits si vous en prenez. Moi je vraiment et sincèrement je pense que je vais tous les revoir en fait. Donc vraiment acheter des bouquets, des paquets. Ouais. Vous avez des paquets avec 10, 20, 30 tickets. Et je pense que voilà, ça sera... Vous me remercierez.
Absolument. Ioana Durand, merci d'être venue nous rendre visite et bonne continuation pour 2021.
Ben, merci beaucoup. Rendez-vous au Festival du film français.
Merci à vous.
Au revoir.
Et après le cinéma, je vous propose à présent un court extrait d'un reportage de notre collègue Grégory Pless sur les idées voyages en cette période de pandémie, donc des road trips.
Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, je vous propose de parler de voyage et plus spécifiquement de road trip en Australie. En ce moment, c'est de toute façon difficile d'envisager autre chose pour les vacances. Aller et surtout revenir de l'étranger, c'est très compliqué à l'heure actuelle. Et même à l'intérieur de l'Australie, les frontières entre les États ont été fermées. Certaines le sont d'ailleurs toujours. Alors forcément, ça limite beaucoup les possibilités en termes de déplacement. Il en reste quand même quelques-unes. On peut par exemple toujours prendre la route et découvrir des merveilles ici en Australie. Vous l'avez peut-être déjà fait. Si ça n'est pas le cas, vous vous demandez sûrement comment ça s'organise. Eh bien, on va parler de tout ça avec deux experts des road trips. L'élément indispensable, bien sûr, c'est le véhicule. Le mieux en Australie, c'est un 4x4, mais on peut aussi faire et voir beaucoup de choses avec une voiture traditionnelle. C'est Sébastien Cros qui le rappelle. Il a fondé et il dirige l'agence de voyage Across Australia.
Les routes sont... goudronné, il y a un accès extraordinaire avec la possibilité de camper un peu partout, tout ça. Le classique, par exemple, si vous êtes dans le Victoria, toute la Great Ocean Road se fait facilement pendant 3-4 jours, remontant aussi sur les grands pions et tout ça, et là, pas besoin en effet d'avoir le 4x4. Dans New South Wales, magnifique balade de Sydney pour aller sur les... Jervis Bay et revenir par les Blue Mountains ou alors par le nord, grandiose. Donc maintenant, pour moi, l'Australie, c'est aussi les pistes et le côté un petit peu de vivre un peu l'aventure, mais l'aventure maîtrisée.
Les pistes, justement, en Australie, dès qu'on s'éloigne des zones habitées, on commence à en voir beaucoup. Elles sont souvent bien entretenues et un 4x4 n'est pas toujours indispensable. Mais dans une voiture normale, mieux vaut y aller prudemment. C'est le conseil de Nicolas Perpich. C'est notre spécialiste de l'économie à SBS French, mais c'est aussi un adepte du road trip. Il a d'ailleurs parcouru des dizaines de milliers de kilomètres sur les routes australiennes.
Tu peux juste tenter le coup, descendre, commencer la route, descendre la piste, et bon, regarder devant toi s'il y a un endroit où il y a trop de rochers, où il y a des trous énormes, et ben, décider si tu as envie de continuer ou pas. Ça fait un peu partie de l'aventure aussi, mais c'est sûr qu'il y a des pistes où on peut passer en plein, dans des parcs, dans des forêts, et vers la mer, faire du camping dans des endroits très beaux, sans un 4x4.
Le problème numéro un avec les pistes, c'est que la météo a un impact direct sur leur état. Et sans 4x4, vous pourriez vite vous retrouver coincé.
Les pistes non goudronnées sont souvent praticables en voiture classique. Le problème, c'est qu'il suffit d'une pluie et tout de suite, ça devient un petit peu comme si tu roulais sur du verglas. La piste de sable, elle devient un petit peu plus glissante et ça devient dangereux avec des trous d'eau. Donc c'est pour ça que je continue à dire que un petit peu le 4x4 ou le SUV est quand même un peu plus stable et plus pratique.
Qu'on soit en voiture ou en 4x4 sur les routes australiennes, il y a un risque qui est partagé par tous les conducteurs, celui de percuter un animal.
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas ?
Et c'est né quelque part par Ayo. Présent un rappel des titres de l'actualité, les autorités australiennes s'engagent à soutenir la campagne vaccinale. Et Brisbane, désignée favorite pour l'organisation des JO de 2032. Et Covid en France, le gouvernement annonce un confinement le week-end dans l'agglomération de Dunkerque. C'est tout pour cette édition du programme en français de ce jeudi 25 février. Prochaine édition, c'est samedi. Et quant à moi, donc, je vous dis bon appétit si vous êtes toujours à table. Bon après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.